Bonjour Estelle Sarabulle.
Bonjour.
Vous venez de publier votre premier roman et déjà, il se détache comme l'un des coups de cœur incontournables de cette rentrée littéraire foisonnante, car à travers l'histoire d'une famille antillaise qui s'inscrit des années 40 à aujourd'hui et qui traverse l'océan de la Guadeloupe à la métropole, vous nous donnez à lire une œuvre portée par un formidable souffle romanesque. Et pourtant, tous ces personnages sont inspirés de la réalité, de vos proches, n'est-ce pas ?
C'est inspiré effectivement de la réalité, même si après j'ai laissé ma plume de romancière prendre le dessus. Mais effectivement, j'ai eu la chance d'être bercée par beaucoup d'histoires dans mon enfance et d'avoir un entourage proche qui était prêt vraiment à parler de son expérience, de la Guadeloupe, de l'exil intérieur, puisqu'ils ont quitté un petit bout de France pour arriver en métropole, et des histoires familiales qu'on m'a racontées, de mon grand-père à mon père en passant par mes tantes et même ma mère qui est arrivée, elle venant du nord de la France, mais qui a complètement adhéré à cette culture. Donc j'ai eu des échos multiples en plus de ma propre expérience de la Guadeloupe.
Et c'est ainsi que l'on croise Hilaire, le grand-père, petit frère qui est votre papa, c'est ainsi qu'il est surnommé par ses sœurs, Lucinde et Antoine. Alors Antoine, c'est bien une de vos tantes, mais qui porte un nom masculin. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Oui, alors en fait, ça venait d'un choix personnel, puisque pour moi, cette tante, qui donc a existé, a toujours été une figure, non pas masculine, parce qu'elle était très belle et elle était très femme, ça, il n'y a pas de souci, mais qui était très forte, qui s'affirmait à une époque quand même, dans les années 40-50, où c'était assez difficile, et qui a toujours fait le choix d'être célibataire et de vivre sa vie de façon individuelle. Et donc, ce prénom masculin était pour moi une façon de faire passer une partie de cette autorité qu'elle avait et de cette indépendance qu'elle a toujours revendiquée.
Donc, une partie de votre famille paternelle est née sur l'île de la Guadeloupe, vous non. Est-ce que précisément, Estelle Sarabulle, c'est un livre que vous avez voulu écrire pour mieux comprendre vos origines qui prennent racine à des milliers de kilomètres de votre quotidien ?
Tout à fait. C'est à la fois pour mieux le comprendre, une espèce d'introspection romanesque finalement, et aussi pour la faire découvrir, puisque en fait, moi qui suis née en métropole, mais qui ai toujours eu des liens étroits avec la Guadeloupe, je me suis vite aperçue que c'était une histoire qui était assez peu connue finalement de la métropole, alors que la Guadeloupe est française depuis 400 ans. Et donc j'ai ressenti une espèce d'urgence à faire connaître quand même cette histoire qui est une grande richesse pour notre pays.
Et en effet, restituer peut-être une époque qui n'existe plus, parce qu'à travers les témoignages de votre père et de vos deux tantes, on sent que les années 60 ont été vraiment une époque... une période charnière pour la Guadeloupe et que l'île n'est désormais plus tout à fait comme avant. C'est aussi votre sentiment ?
Absolument. C'est une île qui est soumise à des changements profonds, violents et extrêmement rapides depuis plusieurs siècles. Je dirais que c'est un petit peu aussi un laboratoire de ce que peut être l'avenir, de ce que peut être aussi le libéralisme, le capitalisme, dans ce qui peut avoir de très brutal dans les changements. Ça se lit beaucoup dans le paysage en Guadeloupe, puisqu'on passe des grandes plantations et de la canne à sucre à l'urbanisation extrêmement rapide, les problèmes de pollution, de circulation que ça peut impliquer. Tout ça, pour moi, est un résumé de ce qu'on peut retrouver de façon plus diffuse, mais bien là aussi, en métropole.
C'est un roman familial, mais c'est aussi un roman où se pose continuellement la question de l'identité, donc à travers sa place dans la société, mais aussi à travers la couleur de peau. Par exemple, Antoine, votre tante, donc, voilà ce qu'elle dit, c'est page 234... Toutes ces histoires de négritude qu'on entendait, que Césaire et Senghor poétisaient admirablement et qui fascinaient les jeunes, ça m'avait toujours laissé indifférente. Et vous, Estelle Sarabulle, c'est une question qui vous laisse indifférente ou c'est une question que vous avez justement pu aborder à travers la restitution de ce passé ?
Absolument. Alors, ça ne me laisse pas du tout indifférente. C'est vrai que je fais dire ça à Antoine parce que la négritude, c'est quand même un concept qui a maintenant une soixantaine d'années. Donc, les choses évoluent à ce niveau-là aussi. Mais moi, je m'y suis beaucoup intéressée de par mon expérience familiale, mais aussi beaucoup par les auteurs, donc Césaire, Senghor, mais tous ceux qui ont suivi ensuite, tous ceux qui parlent aujourd'hui, il y en a beaucoup, Gisèle Pinault, Patrick Patrick Chamoiseau. Donc c'est une question qui est là, que les jeunes se posent aussi, beaucoup dans la musique, dans le cinéma. Et donc c'est vrai que je voulais apporter moi mon point de vue en partant de mes parents sur cette question qui est encore très prégnante.
Donc on l'a dit, dans les années 60, la Guadeloupe change. Et à tour de rôle, pas en même temps d'ailleurs, votre père et vos deux sœurs vont finir par venir en métropole. Et tout se passe bien, sauf que c'est aussi une réflexion sur la place de la communauté antillaise en France, à Paris plus particulièrement, avec aussi cette phrase terrible que prononce votre père. « Je dirais qu'en métropole, nous sommes devenus noirs vers 1980, à partir du moment où avoir du boulot n'est plus allé de soi.
» C'est vrai. C'est vrai que pour beaucoup d'Antillais, arriver en métropole, c'était quand même rempli d'espoir et de chance. Et dans les années 60, il y a eu un moment un petit peu euphorique pour beaucoup d'Antillais. Alors ça n'a pas été facile pour tous, hein, puisqu'il y avait quand même les effets du bumidum qui étaient plus difficiles, notamment pour les femmes. Mais on peut dire qu'à l'époque, le racisme n'était pas vraiment un problème. Les gens étaient bien accueillis, il y avait plutôt une ouverture, une curiosité. Et ça s'est un peu refermé finalement quand la crise économique est arrivée. Dans les années, fin des années 70, début des années 80, c'est devenu plus difficile. Et là, je dirais que les Antillais ont été mis un petit peu à la même sauce que les Algériens, les Africains, les migrants qui arrivaient comme ça. Finalement, il y a eu un amalgame et puis un destin commun entre les Antillais qui pourtant sont des Français depuis des générations et puis ceux qui sont arrivés, qui ont subi de plein fouet le racisme.
Et est-ce que la génération suivante à laquelle vous appartenez précisément a subi justement les conséquences de ce retour?
Oui, je dirais que malheureusement, alors c'est pas toujours flagrant, c'est pas aussi violent et frontal que par exemple aux États-Unis, mais il existe quand même encore aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'ignorance donc sur cette histoire-là, sur l'histoire de la Guadeloupe, et puis effectivement du racisme au quotidien que peuvent subir les personnes. Par exemple, mon père à son arrivée dans les années 60, une des seules choses négatives dont il m'ait parlé, c'est le fait qu'il n'arrivait pas à trouver à se loger. Dès qu'on le voyait, comme par hasard, les locations proposées n'étaient plus disponibles. Eh bien ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu quand j'ai eu 20 ans et qu'il a fallu me loger à Paris. Donc j'aurais jamais pensé avant. J'étais vraiment dans la naïveté, le bien-être de ma vie dans la société française métropolitaine. Et puis finalement, ça m'est revenu comme ça, comme un boomerang, par petits à-coups. Je parle à un moment dans le livre de ce qui peut se passer avec un cafetier juste à côté de chez moi. Et je m'aperçois que par petites touches, quand même, tout au long de ma vie, ça a été émaillé comme ça de petits faits qui malheureusement perdurent, même si, bon, quand même, globalement, la communauté antillaise est extrêmement intégrée à la société française et en fait totalement partie.
C'est un roman qui brille par sa langue, magnifiquement irriguée de créoles, d'expressions pas assez connues en métropole, de langue à vous, puisque vous avez votre style, Estelle Sarabulle. Cette singularité, on la trouve d'emblée dans le titre. Pouvez-vous nous rappeler ce que signifie cette expression « là où les chiens aboient par la queue » ?
Alors, c'est la traduction effectivement d'une expression créole, « la chien cachapé paquet », qui veut dire là où les chiens aboient par la queue, et qui désigne en fait un endroit très éloigné, un lieu vraiment reculé dans la campagne ou tellement loin finalement de la civilisation que même les chiens n'y aboient pas comme partout ailleurs, ils aboient par la queue. Donc on disait ça facilement pour quelqu'un qui habitait loin dans la campagne.
Est-ce que vous parlez créole, par exemple?
Non, malheureusement. Donc je peux comme ça utiliser quelques mots, quelques expressions, mais c'est quelque chose qui ne m'a pas été transmis. Toujours, je pense, dans ce souci pour les premières générations qui arrivaient en métropole en masse dans les années 60, d'intégration. L'idée de parler créole à ses enfants, c'était pas l'urgence, finalement. L'urgence, c'était vraiment, au contraire, de bien parler, de s'intégrer pleinement. Et donc, je n'ai pas eu cette transmission. Ce qui est une rupture, justement, quand je retourne en Guadeloupe, puisque malheureusement, j'ai cette frustration de ne pas parler ce beau créole qu'on parle là-bas couramment.
Est-ce que ça veut dire donc que grâce à l'écriture et à la littérature, vous avez pu vous réapproprier cette part de votre identité qui avait été un petit peu mise de côté?
Absolument, on peut dire qu'il y a de ça. C'est quand même une langue que j'ai toujours eue dans l'oreille, puisque j'entendais mon père le parler quand il appelait tous les dimanches mon grand-père. Donc avec les 7000 km de distance, France au téléphone, il y avait quand même ce créole qui était toujours là. Moi, quand je parlais à mon grand-père au téléphone pour le saluer, lui ne parlait que créole, moi je ne parlais que français, mais malgré tout, on arrivait à faire passer beaucoup d'amour et de tendresse. Et donc, le créole, je l'ai eu comme une musique, finalement, qui a toujours bercé mon enfance, que j'ai toujours aimé entendre parler. Et donc, c'est vrai que je ne le maîtrise pas littéralement, mais il est quelque chose de très quotidien pour moi et d'absolument pas exotique, par exemple.
Et d'ailleurs, votre frère, je crois, a fait le chemin retour.
Oui.
C'est-à-dire qu'il s'est installé en Guadeloupe.
Oui.
Est-ce que vous auriez cette tentation?
Je ne crois pas. Je crois que je suis heureuse quand même dans la France métropolitaine, dans ce qu'elle peut apporter d'ouverture, de modernité, de rapidité de vie. Donc j'aime ma vie citadine. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup me ressourcer quand même ponctuellement là-bas. Et mon frère, lui, a fait le choix inverse. Pourtant, il est né à Paris, lui aussi. Mais il a décidé de s'installer là-bas. Je crois qu'il bougerait plus. Pour tout l'or du monde, il est bien là-bas.
Et puis ça va vous donner l'occasion d'y aller plus souvent peut-être?
Oh oui, j'essaye quand même d'y aller souvent, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un point d'ancrage là-bas familial.
Ce roman donc a déjà été récompensé par le prix Stanislas Groupama, le livre sur la place de Nancy, qui distingue le meilleur premier roman de la rentrée littéraire. Comment est-ce que vous accueillez ce compliment?
Ah ben, j'étais extrêmement flattée, c'était totalement inattendu et j'étais très honorée, d'autant plus que c'est un jury mixte avec des professionnels et des lecteurs.
Merci beaucoup Estelle Sarabulle.
Merci.
Je rappelle le titre de ce premier roman, Là où les chiens aboient par la queue, qui est apparu aux éditions Liana Lévy.
Merci.